de témoins des violences et des conflits quand Bernanos, l'écrivain, inspire Arcabas, le peintre d'art sacré. Voici la seconde et dernière partie de la conférence de Ricardo Sáez, professeur émérite des universités, une conférence enregistrée à Pau lors d'une soirée proposée par Foi et Culture le 12 décembre 2022. Deux témoins des violences et des conflits, quand Bernanos, l'écrivain, inspire Arcabas, le peintre d'art sacré, nous retrouvons Ricardo Sáez pour la seconde et dernière partie de sa conférence.
C'est le moment où se joue l'avenir du monde, en tout cas celui de l'Europe, pour reprendre à mon compte la leçon exigeante exprimée par Thomas Mann dans une publication aujourd'hui oubliée malheureusement, Avertissement à l'Europe, précédée d'une préface d'André Gide appelant à un renouveau des forces vitales d'un humanisme de combat pour que l'Europe ne soit pas réduite à une expression géographique et historique et pour que ses habitants n'aient pas à chercher dès maintenant un refuge en dehors du temps et de l'espace, car devenu souvent complice de l'acceptation passive du mensonge et du crime. C'est dans ce contexte, donc, qui a mobilisé les grandes plumes de l'époque, Brasillat d'un côté, Malraux de l'autre, comment lire la guerre d'Espagne sans l'espoir? C'est impossible. Donc ce camp, qui sont rivaux, opposés, mais tout à fait rivaux, vont effectivement apporter sur l'Espagne un certain nombre de considérations. La première d'elles, de ces considérations, c'est que Bernanos va rompre, et c'est définitivement, avec son camp. Il vient de très loin. Il est monarchiste, antisémite. Il a lu à l'âge de 13 ans tout du monde. Il en est indigné. Il va rompre en 1932 d'une façon fracassante avec Maurras, dans un texte magnifique. Adieu Maurras, pas adieu au revoir, mais adieu, c'est-à-dire Dieu jugera ce que tu as fait, ce que j'ai fait. Adieu Maurras. Eh bien, il va se désolidariser de son camp. Il va écrire ce qu'il a vu. Il devient donc témoin à charge. Pas si vous connaissez ce très beau livre de Annette Bivorka, L'ère du témoin, eh bien oui, il fait partie de l'ère des témoins. Et parmi, bien sûr, ces témoins, il n'est pas le seul. Lui, Bernanos, est un témoin oculaire, un témoin à charge. Nous allons voir l'importance que prennent effectivement dans son ouvrage les verbes de perception, notamment le verbe voir, qui marque de son empreinte insistante tout l'ouvrage. J'ai vu de mes yeux, j'ai vu moi-même qui vous parle, ai-je bien vu? Il m'en a coûté encore de voir, qui met en évidence par ses réitérations appuyées, la véracité de la cruauté de l'extermination qui s'abat sur les républicains. Avant que de poursuivre, je voudrais vous lire quand même deux passages et laisser parler le texte dans toute sa force originelle. Alors, un premier passage, page 70, de ce qu'il a vu et ce dont il témoigne. J'ai vu à Majorque passer sur la Rambla des camions chargés d'hommes. Ils roulaient avec un bruit de tonnerre, au ras des terrasses multicolores, lavées de frais, toutes ruisselantes, avec leur gai murmure de fête foraine. Les camions étaient gris de la poussière des routes, gris aussi les hommes, assis quatre par quatre, les casquettes grises posées de travers et leurs mains allongées sur les pantalons de goutil, bien sagement. On les raflait chaque soir dans les hameaux perdus, à l'heure où ils reviennent des champs. Ils partaient pour le dernier voyage, la chemise collée aux épaules par la sueur, les bras encore pleins du travail de la journée, laissant la soupe servie sur la table et une femme qui arrive trop tard, au seuil du jardin tout essoufflé, avec le petit baluchon serré dans la serviette neuve. Voilà ce qu'il a vu, voilà ce dont il rend compte. Il reprend donc le flambeau de Peggy, il faut toujours dire ce que l'on voit, surtout il faut toujours, ce qui est le plus difficile, voir ce que l'on voit. Bernanos nomme les exactions et les crimes à l'instar d'André Gide, merci, à son tour, au retour de l'URSS en 1936, bien qu'on lui eût demandé de sursoir la publication de son ouvrage, retour de l'URSS pour ne pas faire le jeu de la droite, il n'en tient aucun compte, car celui qui sait voir a vu, que l'URSS est une dictature, évidemment, mais celle d'un homme, non plus celle des prolétaires et des soviets. Il importe de ne pas se leurrer, et force est de reconnaître tout net, ce n'est pas ce qu'on voulait. Et pris de vérité, le chrétien est appelé par le confiteur à ne pas tomber, par intention consciente et délibérée, dans l'accommodement avec le mensonge, en cédant au péché d'omission. Je ne sais pas si vous avez lu ce très beau livre de Anne Applebaum. Dans ce livre d'Anne Applebaum, tout est intéressant, mais il y a un passage qui vous glace. C'est le suivant. Staline part au goulag entouré de tous les grands intellectuels de l'époque. Parmi eux, Gorki. Ils vont au goulag, séjournent au goulag, voient ce qu'est le goulag. Reviennent à Moscou, pas un, parmi tous ces intellectuels, ne dira ce qu'il a vu. Pas un. Ils étaient 139. Voilà. Ça s'appelle le mensonge collectif, qui vous lie et vous relie, bien sûr, au totalitarisme de pensée. Ça, c'est un événement dont je me souviendrai toute ma vie. C'est glaçant. Personne n'a jamais dit, on sait ce qui s'est passé au goulag, mais pas par les voies autorisées des pouvoirs donc politiques russes. C'est à dessein la tentation qu'évite Bernanos. Si le politique est marqué, comme nous allons observer, par la dépendance au pamphlet de Bernanos, celle-ci n'est jamais servile, car le peintre, dans son impérieuse liberté d'artiste, fait jaillir des épiphanies de création personnelle issues d'une connaissance approfondie de l'histoire de l'art, venant enrichir le souffle puissant de la plume de Bernanos. À cet effet, arrêtons-nous sur l'ordonnancement de l'œuvre peinte qui se déroule sous nos yeux. Voilà. Au milieu, un Christ. Il y a trois types de Christ qui, depuis le 5e siècle jusqu'aux prémices de la Renaissance, ont régné, suivant un certain nombre de périodes, sur donc les représentations du Christ en croix. On a tout d'abord un Christ triumphans, le Christ dans son triomphe, digne, en dépit de la torture qui lui est infligée, un Christ patiens, patior patusum, qui a souffert, qui était effectivement davantage humanisé et empathique, très proche des croyants, représenté à l'instant de sa mort, dont le visage est marqué par la douleur, tel le Christ que l'on peut contempler au musée San Matteo de Pise, et enfin un Christ dolens, un Christ mort, mais suffisamment humanisé pour que les chrétiens s'identifient à leur sauveur. Mais habitude a été prise au cours de ces périodes de disposer de part et d'autre de ce Christ des tableaux. Ce qu'on a appelé des tableaux a tabellone, c'est-à-dire donc des panneaux de part et d'autre. C'est ce que va faire donc Arcabas. Arcabas les a peints tout d'abord de façon indépendante, puis il a trouvé un jour cette idée géniale, c'est que le Christ devait être à la fois le lien et l'unité de l'ensemble. Alors vous allez remarquer que, en plein milieu, il y a un Christ qui ressemble étonnamment à un Christ que vous connaissez tous, c'est celui du musée Unterlinden de Colmar. Sauf que, contrairement au Christ de Colmar, il a les genoux tirés plutôt vers l'avant. Alors on a beaucoup discuté du Christ à trois clous, à quatre clous, un seul clou en bas, bon, etc., etc. Bien. Alors, ce qui est important, c'est effectivement de remarquer donc ce Christ qui reprend pour partie le retable d'Isenheim, peint entre 1512 et 1516, par Matthias Nittard dit Grünenwald et sculpté par Nicolas de Haguenau, que l'on peut admirer au musée Unterlinden de Colmar. plaide en faveur d'une telle filiation, la similitude de la croix, la position du corps et surtout l'extrême extension de la cage thoracique d'un réalisme poignant, distendu comme si le Christ cherchait dans un suprême effort son dernier souffle avant d'expirer. Contrairement au Christ de Runenwald, purulent, je pense qu'on l'a quelque part, sauf qu'on ne voit pas sur le côté qu'il y a un flot de sang qui sort du côté du Christ. On ne le voit pas, mais il est là. Donc, il y a une filiation tout à fait directe. Il est Mosellan, connaît bien très certainement la peinture de l'Est de la France. C'est un professeur d'histoire de l'art. Il connaît tout à fait, bien sûr, les crucifixions et les différentes poses du Christ dans la crucifixion. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est ce petit panneau. Ego sum noli timere est une petite fille qui est la fille du peintre. Alors je vais m'expliquer un petit peu là-dessus, parce qu'il n'est pas innocent que ce soit un enfant, je pense que c'est l'enfant qui détient la clé du sens de tout le tableau. Vous allez voir également quelque chose de très intéressant, c'est une véritable innovation, c'est la partie, le paysage qui est derrière. Bon, les montagnes, ici, vous avez une colline. C'est le paysage, bien sûr, de la Chartreuse où il habite. Il n'y a aucun problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que Arcabat refuse, par exemple, les fonds noirs ou gris-verts des peintres espagnols. Il y a quand même deux grands artistes et deux grands tableaux du Christ. Le premier en 1627 par Zurbarán et le second par Velázquez, le Christ de Velázquez, qui a donné lieu à un des plus grands poèmes du XXe siècle, peut-être de tous les temps, le Christ de Velázquez, qui est un poème superbe en vers libre, en expressidable libre, qui a été composé par un des grands maîtres de la littérature et de la philosophie espagnole, Miguel de Unamuno. Donc, il refuse tout à fait, effectivement, ces fonds noirs. Nous verrons tout à l'heure pourquoi. Alors, je reviens à la petite fille. Et à la pancarte qu'elle porte, Ego sum noli timere. Alors premièrement, l'introduction de la petite fille, de l'enfant, parce que c'est l'enfant, Bernanos a une affection toute particulière pour ce monde de l'enfance. Je vais lire un petit passage, un peu plus grand que petit, mais bon, c'est un texte qui mérite d'être dans toutes les anthologies de la poésie ou de la littérature française, en tout cas de la prose, et qui se trouve tout au début des Grands Chantiers sous la Lune, qui a été écrit à Palma de Majorque, avant qu'il ne quitte Palma de Majorque pour Toulon, où il va écrire les Grands Chantiers sous la Lune, de janvier 1937. Alors tout d'abord, ça commence par des phrases envoûtantes qui sont tout à fait nominales. Chemin du pays d'Artois, à l'extrême automne, fauves et odorants comme des bêtes, sentiers pourrissants sous la pluie de novembre, grandes chevauchées des nuages, rumeurs du ciel, aux mortes. Trois points de suspension. J'arrivais, je poussais la grille, j'approchais du feu, mes bottes rougies par l'averse. L'aube venait bien avant que fût-ce rentré. Dans le silence de l'âme, dans ses profonds repères, les personnages fabuleux encore à peine formés, embryons sans membres, Mouchette et Donissant, Cénabre, Chantal, et vous, vous seul, de mes créatures, dont j'ai cru parfois distinguer le visage, mais à qui je n'ai pas osé donner de nom, cher curé d'un ambricourt imaginaire. Étiez-vous alors mes maîtres ? Aujourd'hui même, l'êtes-vous ? Oh ! Je sais bien ce qu'a devint ce retour vers le passé. Certes, ma vie est déjà pleine de morts, mais le plus mort des morts est le petit garçon que je fus. Et pourtant, l'heure venue, c'est lui qui reprendra sa place à la tête de ma vie, rassemblera mes pauvres années jusqu'à la dernière, et comme un jeune chef, ce vétéran, ralliant la troupe en désordre, entrera le premier dans la maison du père. Après tout, j'aurai le droit de parler en son nom, mais justement, on ne parle pas au nom de l'enfance, il faudrait parler son langage. Et c'est ce langage oublié, ce langage que je cherche, de livre en livre, imbécile, comme si un tel langage pouvait s'écrire, c'était jamais écrit, n'importe. Il m'arrive parfois d'en retrouver quelque accent. Et c'est cela qui vous fait prêter l'oreille. Compagnons dispersés à travers le monde, qui par hasard ou par ennui, avaient ouvert un jour mes livres. Singulière idée que d'écrire pour ceux qui dédaignent l'écriture, amère ironie de prétendre persuader et convaincre, alors que ma certitude profonde est que la part du monde encore susceptible de rachat n'appartient aux enfants, aux héros et aux martyrs. Alors, sur l'enfance et sur ce panneau porté par la petite fille, Isabelle, Bernanos attache une grande importance parce que l'enfance est un moment préservé de la vie, d'une part, mais d'autre part, c'est une grâce à préserver, un élan qui se met en travers de l'imposture et du fanatisme. Et puis, il nous dira dans les grands cimetières sous la lune, finalement, ce sont les enfants qui jugeront le monde. Donc, c'est cette candeur, mais à la fois cette fraîcheur, qui va, bien sûr, juger ce monde. Eh bien, dans ce monde, il ne faut rien craindre. Vous savez que c'est un terme qui on le trouve dans la Bible, il y a 366 occurrences. Il y a longtemps, j'avais lu les notes intimes de Marie-Noël, et Marie-Noël nous dit il y a à peu près 350 répétitions de la locution « N'ayez pas peur » dans la Bible. Mais là, je suis allé vraiment voir la façon dont cette locution a été quantifiée. Alors, cette petite, donc, « ego sum nolitimere », c'est Dieu qui parle. « Je suis, c'est moi. »« Nolitimere, n'ayez nulle crainte. » Alors, bon, je ne vais pas lire tous les passages de l'Évangile où nous trouvons « nolitimere », mais tout ceci pour dire que Dieu dit « Je suis dans la permanence des temps. J'étais hier, je suis aujourd'hui, je serai demain. N'ayez pas peur, c'est moi qui prends tout, qui endosse tout, même ceux qui m'ont trahi, comme ces ecclésiastiques espagnols, ces évêques espagnols. Moi, j'ai connu l'épreuve de la croix, j'ai tout pris sur moi, parce que je suis peut-être le seul à avoir surmonté cette épreuve. » Voilà. Donc, nolitimere. C'est tout à fait un chant d'espoir et d'espérance, et c'est autour donc, de ce chant d'espoir et d'espérance qui va être, bien sûr, avili par les tableaux que nous allons voir, que s'ordonne le polyptyque. Alors, je ne vais pas tout vous dire, mais je vais aller à l'essentiel. Dans ce tableau, ici, pour ceux qui connaissent Guernica, ils vont voir quand même un certain nombre de similitudes avec Guernica. Notamment, cette femme ici, on voit mal, les seins dénudés, je pense que c'est plus ou moins Dora Maar, en tout cas sa tête ressemble beaucoup à Dora Maar, qui tient son petit enfant contre elle, son petit enfant mort, voilà. Il y a derrière elle un soldat, un exécuteur, qui attrape le petit, alors ça rappelle le massacre des innocents de Nicolas Poussin, sauf que le petit, au lieu d'être la tête vers le haut et vers le bas, mais on voit exactement la même position de la jambe de l'exécuteur, c'est-à-dire la jambe sur la gorge. Et puis, nous avons effectivement ici un toréador. C'est exactement, là voilà, l'officiant de la mort. Il a une épée en haut, à la main, c'est l'épée pour tuer le taureau, et un estoc en bas, c'est-à-dire il va porter l'estocade à l'enfant, il va l'achever. Non, c'est une scène véritablement d'une violence inouïe, et il y a, mais on ne le voit pas, c'est dommage, voilà, ici, derrière, quelqu'un, donc derrière la cape, parce que c'est la cape du toréador qui est là, voilà, s'abrite quelqu'un qui, par cette fente qui se trouve ici, regarde ce qui est en train de se passer. Donc il y a un témoin qui a vu et qui dira peut-être, effectivement, ce crime, et ce crime ne restera pas du tout impuni. Ici, pardon, voilà, nous avons quelque chose d'assez remarquable. Il l'a nommé la vanité de la mitre. Oui, voilà, je crois. Voilà. Alors, nous avons une mitre gigantesque. Elle est là. Voilà. Nous avons une mitre gigantesque, mais nous avons ici la lune. La lune qui se lève, qui va éclairer cette mitre gigantesque, surdimensionnée, qui met en avant, bien sûr, le moi, l'ego de ces prélats, et qui va être contrebalancé tout de suite par ce que vous avez. Il y a deux plans. Un plan, on dirait, tout à fait de vanité humaine, cette mitre, et en bas, quelque chose qui contraste tout à fait avec la mitre, c'est-à-dire, eh bien, souviens-toi que tu es poussière, poussière tu deviendras. Nous avons un véritable cimetière ici, avec un crâne, un bras décharné, un amas fait de, je veux dire, d'os réduit en poussière, bon, etc., etc. C'est un contraste très 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 fort entre deux plans. Et le plan, bien sûr, de cette vanité humaine, vanitas vanitatum et omnia vanitas, et en même temps, ça renvoie à quoi ? À une thématique très très forte dans toute la littérature et dans la peinture du XVIe siècle, c'est « Souviens-toi que tu vas mourir », c'est le même « Tomori ». Et « Souviens-toi que tu es », et dans ta finitude, bien sûr, bon, c'est aussi ce qu'on a très souvent dans les tableaux baroques, c'est-à-dire ces deux plans, et le plan de l'ego et le plan, bien sûr, de la dépossession de cet ego. Alors, ici, nous avons les deux tableaux de gauche n'ont pas bougé, sont restés tels quels. Ceux de droite ont effectivement connu un certain nombre d'évolutions. Ils n'ont pas été peints par la suite, ils ont été peints entre 60 et 62, mais il a trouvé effectivement qu'il fallait quelquefois les rectifier. Au départ, nous avions ici, voilà, une crosse surdimensionnée, qui est quand même le signe de l'évêque, et puis des évêques qu'il a appelés des évêques en paquet. C'est-à-dire, c'est l'unanimisme de l'Église espagnole face à la guerre d'Espagne. J'ai pas le temps de tout dire, mais il y a quand même un certain nombre de petites choses qu'il faut dire. Alors, ici, c'est dommage, on ne voit pas bien, vous avez une... Voilà. Vous avez une mitre ici. Bon, vous avez des habits qui sont tout à fait carnavalesques. Grotesques et carnavalesques. Le carnaval, ce sont des arlequins. L'arlequin n'est pas fiable. C'est effectivement quelqu'un qui, par les chatoiements de couleurs, séduit. Mais il ne cherche pas la vérité, il cherche la séduction. Lisez ce très beau petit livre de Michel Tournier qui s'appelle « Pierrot ou les secrets de la nuit », qui est l'histoire d'un cas magnifique d'un couple, un triangle, donc le triangle amoureux, de Colombine, Arlequin et Pierrot. Un jour, donc, Colombine rencontre Arlequin, mais elle est amoureuse de Pierrot. Pierrot est boulanger. Il connaît la nuit, parce qu'il travaille la nuit, il connaît l'odeur et le goût du pain. Et arrive un jeune gars, qui vient d'ailleurs, avec une roulotte, et qui l'embarque. Il la séduit. Puis arrive l'hiver. Oh, il a froid. Elle se dit quand même, dans le fournil de mon Pierrot, j'ai chaud. Et elle revient. Et Pierrot de lui dire, Colombine, on ne vit pas avec des couleurs chimiques. Voilà. Magnifique. Magnifique. Bien. Donc, nous avons des évêques, l'unanimité des évêques, qui fait appel à quoi ? À cette fameuse lettre pastorale, le 1er juillet 1937, envoyée par les évêques d'Espagne aux évêques du monde entier. Cette lettre a posé des tas de problèmes au Vatican. Le Vatican mettra longtemps à va mettre un certain temps à reconnaître donc l'état de Franco, l'état franquiste. Premièrement, cette lettre, l'Observatore Romano ne va publier qu'un résumé. Donc elle n'a pas tellement plu, je pense, en haut lieu à Rome. Et elle ne se trouve pas dans les documents officiels du siège apostolique. Ce sont des documents officiels qu'on a à Rome, elle n'y figure pas. C'est dire le peu d'engouement que le pape Pie XI a eu à l'égard de cette lettre. Nous savons que lorsque le franquisme a été reconnu en 1938, des tiraillements se sont annoncés et se sont déclarés entre Pie XI et le chef de la diplomatie à l'époque, qui était le futur Pie XII. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Nous avons ici, bien sûr, une sorte de église ou de hiérarchie tout à fait grotesque, et également ici, voilà. Alors, difficile parce que j'ai agrandi sur mon écran, je pense que c'est l'un des exécuteurs qui protège cette église, parce que derrière, nous avons ici un mur, nous avons ici très certainement des vitraux, dont c'est l'abside d'une église, et derrière, nous trouvons effectivement des personnages. Bien, c'est donc ces exécuteurs, ce pouvoir politique qui protège l'église. Et devant, nous avons ici donc un évêque, ici un autre évêque qu'on voit pas bien, avec une barbe blanche et vénérable, mais la mitre, qui est une mitre qui fait presque 2 mètres, est tachée. C'est une église qui est éclaboussée par la boue. Voilà. Ici, on le voit très 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 bien ici, exactement là. Voilà. C'est taché, c'est une église qui a trempé, c'est une église effectivement qui a été éclaboussée par la boue de la guerre et les positions que cette église a pu prendre. Voilà. Ça, c'est le dernier panneau, qui est un très beau panneau. Là aussi, même continuité thématique, mêmes habits, ils sont bariolés. Ce sont des habits tout à fait carnavalesques. Ce sont des évêques tout à fait d'Arlequin. Et on voit quand même un certain nombre de mitres tout à fait disproportionnés. On en voit 2, il y en a 4. Parce que, il y en a qui sont derrière ici, on ne les voit pas. Alors, il y en a une ici, une là, 2 immenses crosses, ici et là, et un contraste extraordinaire, ça s'appelle la Pietà des évêques, entre, ces évêques grotesques, lui, par exemple, celui-ci, voilà, il a un nez à la Pinocchio. Il ment. Il a menti. Ici, vous avez un œil protubérant. Bon, on voit ces crosses surdimensionnées. Et puis, il y a ce qui manquait jusqu'alors, le sacrilège. Le sacrilège. Comment cet évêque, vous voyez le contraste des couleurs tout d'abord, la Vierge, avec une main d'une finesse remarquable, on dirait une main peinte par le Gréco, c'est exactement ça, magnifique, c'est très beau. Alors, son fils, bien sûr, ou un combattant auquel à qui elle donne à boire. Et voilà, et voilà, ici, et on voit, il tient, voilà, voilà. Et donc, cet évêque, d'une main noire, tout est noir, d'une main noire, qui va bénir, ou qui veut bénir le Christ, lui, qui a commis l'énorme sacrilège d'être tout à fait oublié. De quoi ? Eh bien, désengagement premier de l'Église. Voilà. Donc, je n'ai pas le temps, parce qu'il y a un tas de choses encore remarquables, mais très, très rapidement. Une Vierge, voilà, qui s'apitoie sur, bien sûr, la souffrance de son fils, peut-être prend-il ici la forme du combattant. Et le contraste qu'il y a entre ces ecclésiastiques, ces évêques, grotesque et carnavalesque, et l'amour, la beauté, et la compassion de la mère pour le fils. Donc c'est une critique tout à fait sans concession que mène tout à fait Arcava. Et là, il y a quelque chose de très important, de très intéressant, c'est bien sûr l'irruption du sacré. Bon, vous lirez tout ça de façon plus détaillée dans la version écrite. Voilà, voilà. Alors, je voudrais conclure, mais c'est un problème toujours de conclure, parce que, comme dit un grand philosophe allemand, conclure, c'est un petit peu exclure. Voilà, je vous ai donné quelques coordonnées pour lire. C'est beaucoup plus détaillé dans tout ce que vous lirez. Tout d'abord, le politique, s'il prend position contre les mauvais serviteurs du Christ, Bernanos ne prend jamais position contre l'Église. L'Église est sacrée. Et même ceux qui ont fauté gardent bien sûr le sacre selon l'ordre de Melchizedek. Ils sont marqués à tout jamais. Bien. Ne lui faites pas dire ce qu'il n'a pas dit. Bien. Donc, contre les mauvais serviteurs de l'Église, ce polyptyque ne ferme pas la porte à l'espérance. Sous des formes parfois caricaturales, mais réelles, Bernanos rappelle les abandons et les démissions du chrétien face à la violence armée et au conflit qu'il condamne fermement. Toutefois, dans leur indignité, pour Bernanos, les évêques coupables n'ont pas perdu l'onction sacrée qu'ils ont reçue le jour de leur sacre. Ils sont marqués à vie selon l'ordre de Melchizedek. Pour lui, d'ailleurs pour Bernanos, ils sont devenus des otages. Alors d'un terme qu'il aime beaucoup, qui était très éclairant quand même, otages de la mondanité. Très intéressant, travailler avec ce terme, otage de la mondanité, c'est un terme qu'il emploie dans la lettre aux Anglais. Il a beaucoup écrit, mais bon, les harmoniques reviennent tout le temps, et les grandes structures de pensée et de réflexion sont identiques. La mondanité, c'est-à-dire que pendant un temps, quelqu'un est otage, est victime du mal. Voilà ce qu'il appelle la mondanité. Et donc, étant otages du mal, ils ont trahi leur engagement premier, leur engagement, bien sûr, de chrétiens. Cette mondanité a un poids sur l'Église. Elle la défigure, elle la salit, elle la désacralise et elle la trahit. Et je suis comme vous. Je m'intéresse à tout ce qui se passe, avec un regard, bien sûr, qui plonge dans l'épaisseur du temps. Mais il y a un point de convergence dans tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans l'Église. Il y a un terme qui conjoint les périodes, c'est le terme trahison. Lorsque ceux qui ont été abusés parlent, le mot qui revient le plus souvent, Dieu sait si j'ai lu là-dessus des articles et des témoignages, c'est le mot trahison. Voilà. Pour Bernanos, c'est la mondanité. C'est-à-dire, c'est le lieu même de notre aliénation. Nous sommes devenus autres que divins, nous sommes devenus mondains. Et c'est cette mondanité qui s'allie, avilise, désacralise, bien sûr, l'Église de Dieu. Mais en même temps, ce Dieu, ça c'est la marque que l'on trouve toujours chez Arcabas de quoi ? C'est une croix à quatre portants qui dit que, quelle que soit la situation dans laquelle se trouve le chrétien, quelque part, il y a une présence divine, le mal n'a pas réussi à éclipser, à effacer la présence de Dieu. Et ce que certains ont dit dans les camps de concentration, c'est exactement ça. Dans la pire des situations, quelque part, il y a un indice, une marque, un souffle de divin. Et c'est ainsi qu'il a voulu effectivement figurer, eh bien, quelque chose qui est la pire des choses pour un chrétien, c'est la perte de confiance en Dieu. Vous savez que dans le théâtre classique espagnol, il y a une très belle pièce de Tirso de Molina qui s'appelle El condenado por desconfiado. Le condamné parce qu'il a été, il n'a pas cru. Parce que jusqu'au dernier moment, ce pari avec Dieu reste toujours d'actualité. Ce lien avec Dieu est toujours présent. Et même dans le pire des cas, ici, un enfant qui est l'innocent, par définition, et qui est tué, comme on le voit, eh bien, même dans le pire, effectivement, des massacres, quelque part, il y a encore un Dieu qui ne s'efface jamais entièrement. Vous savez, cette éclipse de Dieu, eh bien, non. Elle est là, Dieu est là, au milieu, bien sûr, des pires moments de l'existence. Je continue, et je vais finir. C'est un temps d'épreuve. C'est un temps d'épreuve. Un temps d'épreuve et d'effacement, mais aussi de reconversion. Terme qu'on emploie très peu, maintenant. De reconversion par le pardon, plus que par la repentance. Au nom d'une justice réparatrice de la violence, qui a été faite, qui a été exercée contre les victimes. Il est évident que Bernanos n'a pas écrit sur le séisme actuel de l'Église. Il n'est plus de ce monde. Mais qu'est-ce qu'il nous a laissé comme héritage ? Il nous a laissé quelque chose de très beau, que je trouve magnifique. Contrairement à Sartre qui nous dit « L'enfer, c'est les autres », que va dire Bernanos dans « Les grands cimetières sous la lune » ? Eh bien, il va nous dire quelque chose de formidable. Peut-être que s'il était là, il nous dirait ce qu'il a déjà écrit. Il nous dirait ce qu'il a déjà pensé. C'est qu'il n'y a qu'un seul enfer. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. C'est celui de ne pas savoir aimer. Aimer la religion d'amour, la religion de don, la religion de respect, à laquelle Dieu appelle ses vrais fils. Et je crois que le plus beau des testaments qu'il nous a laissé, c'est ça. Le seul enfer, c'est de ne pas savoir aimer. Voilà. Alors vous le déclinez dans tous les sens, comme vous voudrez. Je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons, vous vous aimez, il s'aime. Bon, mais une religion qui a inventé quelque chose qui est tout à fait révolutionnaire, c'est-à-dire l'amour, il est évident que ce qui reste, et ce qui est la marque de fabrique, effectivement, de cette religion, c'est ça. C'est qu'il n'y a qu'un seul enfer. Le seul enfer, donc, lorsque, effectivement, dans l'Église, ceux qui sont à la tête, et ceux qui sont en bas, et ceux qui sont au milieu, ont oublié des pères. Et je pense que c'est la plus grande leçon que laisse Bernanos, à travers, bien sûr, ce polyptyque. Je suis allé relativement vite, mais vous aurez la totalité du texte, donc dans la version que vous enverrez, sur cette secousse qui, à un moment donné, quelqu'un qui va se convertir, parce qu'il va se convertir à l'âge de 20 ans, après une recherche spirituelle, va se convertir, a trouvé comme véritable voie de libération un livre écrit par Bernanos, et en même temps, un moyen d'expression, la peinture, qui reste à la fois une peinture critique mordante, mais en même temps libératrice, car le bleu du ciel, les montagnes, les collines, annoncent effectivement un avenir radieux et nouveau. Merci de votre écoute.
Deux témoins des violences et des conflits quand Bernanos, l'écrivain, inspire Arcabas, le peintre d'art sacré. Vous venez de suivre la seconde et dernière partie de la conférence de Ricardo Saez, professeur émérite des universités, une conférence enregistrée à Pau lors d'une soirée proposée par Foi et Culture le 12 décembre 2022.